à Chicago fin décembre 1965. L'atmosphère est super électrique, très enfumée. On est au Plug de Nickel.
Le fameux club, ouais.
C'est ça. Et la mission de notre exploration d'aujourd'hui, l'idée, c'est de comprendre ce qui rend le coffret The Complete Live at the Plug Nickel 1965 si fascinant. On l'appelle souvent le coup de cœur Seven Sets to Heaven, et je suis vraiment ravie de me plonger là-dedans pour comprendre pourquoi ces deux nuits fascinent encore le monde aujourd'hui.
Et moi, je suis ravi d'en parler. Pour poser le décor, on est vraiment à un moment charnière. Miles Davis fait son grand retour sur scène après quoi 8 mois d'absence, je pense.
8 mois, oui, à cause d'une lourde opération de la hanche.
Exactement. Et là, il retrouve enfin son illustre quintet. Ce qui est fou, c'est que la magie opère tout de suite. Dès les premières notes, la cohésion est immédiate.
Il y a d'ailleurs une anecdote assez savoureuse dans les archives pour illustrer l'ambiance de ces soirées. Dans le public, un jeune saxophoniste local de 19 ans, un certain John Clemmer, et Miles est apparemment d'excellente humeur ce soir-là.
Ce qui n'était pas toujours gagné avec lui, hein.
Bah oui, c'est clair. Du coup, Miles l'invite carrément à monter sur scène avec eux. Mais le jeune homme est tellement tétanisé, tellement intimidé qu'il n'ose même pas y aller. Il reste cloué sur sa chaise, juste émerveillé d'avoir été sollicité par Miles en personne.
En même temps, on peut totalement le comprendre. On sait tous à quel point ce groupe, ce second grand quintet, était jeune. Mais l'analyse des chiffres est stupéfiante. Wayne Shorter a 32 ans, Ron Carter 28, Herbie Hancock n'en a que 25, et le prodige Tony Williams à la batterie vient tout juste de fêter ses 20 ans.
20 ans, c'est dingue.
Ouais. Et ce qui est frappant dans ces sets, c'est la façon dont cette jeunesse s'exprime. C'est pas juste de l'énergie brute. C'est une insolence assumée qui les pousse à déconstruire complètement le répertoire.
Une vraie urgence insolente, tout à fait. Surtout que cette set, ça implique une endurance incroyable. C'est un vrai marathon, épuisant sur 2 nuits. Miles disait lui-même qu'il jouait plus librement que jamais à ce moment-là.
Absolument. Et c'est là que le livret de Sid Schwartz, qui est inclus dans le nouveau coffret, devient passionnant. Il propose une grille de lecture en 3 étapes pour vraiment comprendre cette liberté. Il observe la genèse du standard, ensuite la manière dont l'orbite de Miles l'était déjà appropriée, et finalement la mutation radicale au plug nickel.
On peut prendre My Funny Valentine pour illustrer ça, lors du second set du 22 décembre. À l'origine, c'est une ballade très classique. Ensuite, Miles l'avait redéfinie avec son lyrisme tout en retenue. Mais la 3e étape, là, au plug nickel, est stupéfiante.
Ouais, la section rythmique disloque tout.
Exactement. On entend cette urgence frénétique de la batterie et du piano qui vient percuter la dimension presque spirituelle des silences de la trompette. Le contraste est fascinant.
C'est vraiment le cœur de ces enregistrements. L'auditeur est pris entre l'urgence de cette jeunesse et la sérénité du leader.
Ce qui rend la suite de l'histoire d'autant plus dingue. Ces bandes, elles sont restées enfouies dans les archives de Columbia pendant 11 ans.
Ça s'explique par le climat de l'époque. Sortir un disque live où les morceaux étaient à ce point déstructurés, c'était perçu comme commercialement trop risqué, trop avant-gardiste pour un enregistrement en direct traditionnel.
Heureusement, ce coffret répare tout ça. Surtout qu'il apporte la valeur ajoutée avec des photos inédites in situ qui montrent vraiment l'intensité de ces nuits, sans parler du fameux livret.
Tout à fait. Et si on cherche une leçon à retenir de cette exploration, pour quiconque écoute du jazz aujourd'hui, c'est vraiment une philosophie de l'audace. Le critique Franck Bergerot résume parfaitement l'esprit de ce quintet. Il dit que l'erreur n'est jamais que l'opportunité de découvrir une solution inédite.
L'erreur comme moteur de l'innovation, c'est puissant. Ça m'amène d'ailleurs à une pensée un peu provocatrice pour clore notre session. Les sources nous rappellent qu'à cette même période, en dehors de la scène, les membres du groupe enregistraient d'immenses chefs-d'œuvre individuels. On parle de Maiden Voyage, de Spring, de The All-Seeing Eye ou encore de ESP.
C'est vrai, un bouillonnement créatif total.
Exactement. On peut alors se demander, cette incroyable explosion de créativité individuelle, développée de leur côté, ne serait-elle pas, paradoxalement, le véritable secret qui leur a permis d'atteindre une telle liberté collective sur scène? Une piste de réflexion inédite à garder en tête pour la prochaine écoute.
Thank you.